السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal, notre créateur, notre seigneur, qui nous a donné la vie, al-haya, et qui nous accorde la possibilité de vivre une nouvelle année. Chaque jour que nous vivons, mes chers frères en islam, est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que chaque jour vécu par le musulman, c'est un jour qui lui donne la possibilité de se rapprocher d'Allah. C'est un jour qui nous donne la possibilité d'obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est un jour qui nous permet d'œuvrer, de faire de bonnes actions pour être gratifié de ce qu'on appelle husnul khatima. Et ça, c'est un dua que nous devons demander à chaque instant. Qu'Allah nous accorde husnul khatima, une bonne mort. Une mort avec le kalima, shahada. Une mort en accomplissant de bonnes actions. Et chaque jour nous permet donc d'obtenir le Jannah, le paradis. De la même façon, chaque jour qu'Allah nous accorde dans ce monde, c'est un laps de temps, c'est un temps supplémentaire qu'Allah nous accorde. Et avec ce temps, Allah nous permet de revenir vers lui. Chaque jour est un jour où on peut demander tawba, on peut revenir vers Allah. On peut se protéger de ce qu'on appelle cette fois-ci le contraire, sou al-khatima, la mauvaise mort. La mort dans une période où notre iman est de mauvaise qualité, un iman qui est bas, ou alors mourir dans les péchés qu'Allah nous protège. Et donc chaque jour qui passe, c'est un jour où on peut se protéger du jahannam, de l'enfer. Alors, en résumé, c'est ça la notion du temps pour le croyant. Pour le mu'min, c'est ce que représente le temps. Et le temps qui passe, mes chers frères, en islam, nous fait prendre conscience que notre masjid, notre mosquée se dépeuple de ses anciens qui nous quittent semaine après semaine, parfois même jour après jour. Et avec leur départ, il y a une partie de leur histoire, de notre histoire, de l'histoire de notre communauté qui s'en va également. Mais ce qui est plus préoccupant et qui devrait attirer notre attention, c'est le fait que ces personnes sont parties. Il y a des gens qui nous ont quittés depuis, subhanallah, une génération, 45-50 ans. Mais les immeubles qu'ils ont construits sont toujours là. Les magasins, les terrains qu'ils ont, mashallah, sur lesquels ils ont investi, sont toujours là. Ils sont maintenant dans la main de leurs héritiers. Ça veut dire qu'on doit retenir une leçon. Les gens, les générations, les personnes, qu'ils soient aisés ou moins aisés, nous sommes tous de passage sur terre. Et si nous avons eu la possibilité d'œuvrer pour ce monde et d'obtenir quelque chose, mais quand nous quittons ce dunya et quand nous sommes enterrés, ben ces choses-là restent. Et sont redistribuées par des mains, entre des mains qui ne sont parfois pas aussi sincères que nous ne l'étions. C'est le cas des héritiers des deuxièmes, des troisièmes générations où parfois ils vont dilapider les biens qui ont été durement acquis par les premières générations. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Et le mu'min doit prendre conscience d'un hadith que tout le monde connaît, qu'on a entendu mais une vingtaine de fois dans différents bayans. Et en général, dans n'importe quelle intervention, 95% de ce que l'intervenant dit, ce sont des choses qui sont connues. C'est pour ça qu'il y a des fois où on aime des histoires un peu extraordinaires. Tout ce qui sort de l'ordinaire, ça nous fait plaisir. Là, on bouge la tête, dire Non, le but, c'est pas d'avoir du nouveau. Le but, c'est de prendre conscience de ces réalités. Je vais vous citer un hadith qui est vraiment le béaba du mu'min. Quand le prophète alayhi salatu wassalam nous explique yatba'ul mayyita thalatha, lorsque quelqu'un décède, il y a trois choses qui suivent le défunt. Fayarju ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Et après son enterrement, il y a deux choses qui le quittent maintenant. Il y avait trois avec lui. Après l'avoir enterré, il y en a deux qui prennent leur distance avec ce corps. Et il y a une seule chose qui reste avec lui, vous avez compris. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Sa famille le suit pour l'enterrement, ses biens également et ses œuvres, ses actions. Et quand la personne est enterrée, la famille retourne. Les biens s'éloignent parce que les biens trouvent d'autres malik, d'autres propriétaires. Et la seule chose qui reste avec la personne, ce sont ses actions. Hadith basique. On ne vous apprend rien de nouveau. Ce sont des choses qui sont connues. Mais est-ce que nous méditons sur le sens de ce hadith prophétique? Et est-ce que nous arrivons à construire ou à reconstruire notre vie par rapport à ces réalités que le prophète, alayhi salatu wassalam, dont le prophète nous a informés? Donc mes chers frères, soyons des croyants éclairés qui prend conscience, ce croyant qui prend conscience du temps qui passe et des personnes qui s'en vont et qui prépare le moment où il va retourner un jour vers Allah. Et ne soyons pas cette personne qui voit les jours passer mais qui continue à travailler ses objectifs personnels sans jamais penser à retourner vers Allah Azza wa Jal. On avait dit, une petite parenthèse, on doit la compléter sinon c'est pas correct. Notre mosquée se dépeuple de ses anciens, mais cette mosquée doit se peupler, repeupler et briller par les shababs, par les jeunes et les moins jeunes qui la fréquentent régulièrement. La transmission de iman, la transmission de foi est un devoir qui incombe à chaque croyant et chaque croyante, et cela transite par les madaris, les écoles, mais avant tout par l'éducation des parents. Chers frères, en islam, nous vivons en ce moment un mois exceptionnel. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Muharram, et c'est un mois qui a eu l'honneur d'être annexé au nom d'Allah. On parle de Shahrullahi, le mois d'Allah Muharram. Il y a pas mal de hadiths qui vont de le sens des vertus de Muharram. Nous n'en citerons qu'un seul. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam répond à un sahaba qui lui avait posé une question concernant les meilleures périodes de l'année, il avait dit que Shahrullah alladhi tad'unahu al-Muharram, le meilleur mois de l'année, bien sûr après le mois de Ramadan, c'est le mois d'Allah, c'est-à-dire le mois de Muharram. Et nous voyons à travers le jeûne de Ashura, qu'on a eu l'occasion de mettre en application il y a quelques jours, nous voyons à travers le jeûne de Ashura, Karam, la générosité d'Allah Azza wa Jal, qui est Al-Karim, le généreux. Il y a quelques semaines, on va dire peut-être un mois, lors du jeûne de Yawm Arafat, on a déjà obtenu, Inch'Allah, le pardon de notre Seigneur. C'était là sa promesse, en fin d'année. Dans le 12e mois de l'année. Et là, la nouvelle année commence dès le premier mois. Allah Azza wa Jal nous accorde encore son pardon pour celui qui accomplit le jeûne de Ashura. Nous devons comprendre, au-delà de la pratique, parce que la pratique en général, tout le monde le met en pratique, mais on a besoin d'un peu de recul par rapport à ses promesses, par rapport à ses vertus, et être capable d'analyser avec les yeux du cœur, avec notre iman, voir la générosité d'Allah et voir qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Allah Azza wa Jal est prêt à donner. Allah Azza wa Jal est prêt à donner, est prêt à distribuer, mais Allah attend juste un petit effort de notre part. Allah est pardonneur, Allah est généreux, il nous demande de produire un effort, de montrer que nous l'aimons et cherchons sa grâce. Si Allah voulait faire entrer tout le monde au paradis, ça aurait été possible pour Allah Azza wa Jal. Mais notre Seigneur attend de nous un effort. Le jeûne de Ashura, le jeûne de Arafat, les 5 prières quotidiennes, ce sont les conditions que nous devons réunir pour obtenir cette générosité d'Allah Azza wa Jal. Et quand Allah donne, Allah qui est Al-Ghani, qui est le riche, Allah qui est Al-Karim, qui est le généreux, Allah donne sans compter. Mes chers frères, en islam, ce mois de Muharram a connu un événement exceptionnel, mais également une tragédie, une des pires tragédies de l'histoire de l'islam. L'événement exceptionnel, c'est l'aide d'Allah Azza wa Jal à l'attention de son prophète Moussa alayhi salam lorsqu'il était face à Pharaon, bien sûr. L'histoire de Moussa alayhi salam face à la mer, c'est une histoire connue de tous. Pas besoin de le raconter, on a eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises. Retenons que c'est par rapport à cette victoire, à cette nusra, l'aide d'Allah Azza wa Jal, que maintenant nous jeûnons le jour de Ashura. Car l'islam, ça on doit retenir, qu'est-ce qui fait que nous accomplissons une action qui est en rapport avec un prophète qui n'est pas le nôtre? En fait, l'islam est une religion universelle qui nous enseigne aussi bien l'amour, bien sûr, pour notre prophète Mohammed, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, mais également l'amour du prophète des Yahouds, des Juifs, Moïse, Moussa alayhi salam, également l'amour du prophète des Nassara, des chrétiens, Isa alayhi salam. Et c'est là que nous devons voir et entrevoir et même percevoir l'universalité, l'université de notre religion qui rassemble tout le monde. Mes chers frères, l'autre événement, là on parle maintenant d'un événement dramatique, c'est l'assassinat de Hussein radiallahu anhu, le 10 Muharram de l'an 61 à Karbala. Nous vous proposons dans ces instants, en 10 minutes à peu près, 15 minutes, nous vous proposons de voir quelques leçons de foi, de iman, à travers l'histoire de Moussa alayhi salam dans cette épreuve face à Pharaon, afin de comprendre comment on doit agir pour obtenir l'aide d'Allah. Moussa alayhi salam a obtenu l'aide d'Allah. Quelles étaient les qualités réunies et pratiquées par Moussa alayhi salam pour obtenir l'aide d'Allah? Et là on parle de l'autre événement, quelques leçons malheureuses de l'assassinat de Hussein radiallahu anhu, qui résulte, ça s'est pas passé comme ça, l'assassinat de Hussein, qui résulte des troubles qui remontent depuis l'assassinat de Uthman radiallahu anhu, commandité par des munafiqines, par des hypocrites, qui ont semé le désordre, la fitna au sein de la Ummah, qui ont égaré des croyants ignorants. Et la cible des hypocrites, ce sont toujours les juhal, les gens qui n'ont aucune connaissance de la religion, et les ont utilisés pour accomplir ce crime odieux, qui donnera suite plus tard par l'assassinat de Hazrat Ali, radiallahu anhu, par d'autres mouvements extrêmes qui vont apparaître, pour contrer ces mouvements extrêmes. Et enfin, malheureusement, l'assassinat du petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, Hussein, radiallahu anhu. L'objectif, c'est pas de retracer l'histoire, on peut pas le faire en si peu de temps, mais c'est de voir les dangers des fitnas. On a grandement besoin de revenir un peu vers notre histoire. En général, notre connaissance de la sirah, justement, ce que nous connaissons, c'est la sirah. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie d'Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début de la révélation jusqu'à son décès. Et tout ce qui vient après le décès du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, très souvent on a fait l'impasse. Et on a grandement besoin de connaître ces phases de l'histoire pour en tirer les conséquences. Parce que ce qui s'est passé à l'époque de Uthman, après le décès de Umar ibn al-Khattab, depuis le khilafa de Uthman, radiallahu anhu, ces fitnas, ces troubles de le monde musulman ne se sont jamais arrêtés. Ils se manifestent de différentes façons. Et ce que nous voyons en ce moment qui nous perturbe profondément de notre pratique sincère et honnête de l'islam, ben, tous ces actes de terroristes et d'État, ce qu'on appelle, ce qu'ils veulent bien appeler État islamique, ben, tout ça, ça découle de l'apparition des Khawarij. Donc, très important de remonter à la source pour être capable d'identifier le nœud du problème, d'où vient le problème, et de voir qu'est-ce qui a causé ce problème. Comment est-ce que la polémique a enflé pour que ce nœud prenne forme? Pour que si nous voyons des signes qui nous amènent vers ce genre de maintenant, nous sommes capables de les reconnaître et de ne pas commettre de telles erreurs. Les erreurs de tomber dans le piège, je veux dire, de ces munafiqines, des hypocrites. Donc, pour la victoire de Moussa al-Islam, 5 minutes pour la victoire de Moussa al-Islam et 5 minutes pour l'histoire de Hussein, radiallahu anhu. En résumé, mais vraiment très bref, on a affaire aux Banu Israël, qu'on traduit en français par les Israélites. Donc, les Banu Israël sont persécutés par Pharaon depuis des générations. Ils sont réduits à l'esclavage. Moussa al-Islam, qui est envoyé pour les Banu Israël, arrive à les convaincre de la véracité de la religion d'Allah Azza wa Jal, et enfin, il peut convaincre les Banu Israël de fuir l'esclavage de Pharaon et donc de quitter l'Égypte. Alors, Moussa alayhi salam reçoit l'ordre de la part d'Allah Azza wa Jal d'emmener les Banu Israël où ça? Près de la mer. Arrivé à l'endroit demandé par Allah Azza wa Jal, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune issue. Ils arrivent à un point où devant eux il y a la mer, à droite et à gauche il y a des montagnes, et qu'est-ce qu'ils entendent derrière et qu'est-ce qu'ils voient? La poussière des chevaux de l'armée de Pharaon. C'est une situation qui est coincée, alors que c'est la demande d'Allah Azza wa Jal, révélation wahy min Allah à Moussa alayhi salam. C'est une grande épreuve pour deux personnes, pour Moussa alayhi salam en tant que leader, en tant que prophète, et une grande épreuve pour les Banu Israël. Obéir aux ordres d'Allah en gardant confiance en sa promesse, je répète, obéir aux ordres d'Allah, en gardant confiance en sa promesse, sans jamais douter de la sagesse d'Allah, alors que la situation est entièrement défavorable. Tout est contre eux à cet instant. Le temps et l'espace. Mais malgré ça, Moussa alayhi salam ne doute pas une seconde, alors que les Banu Israël vont un petit peu vaciller de leur confiance en Allah Azza wa Jal. Les deux qualités émergentes, pour faire bref, de Moussa alayhi salam dans cette situation sont premièrement la confiance en Allah, ar-raja, l'espoir en Allah, qualité propre aux croyants, a'malul quloub, action du cœur, husnul dhann billah, une pensée positive en Allah, être persuadé que jamais Allah ne va m'abandonner, ne va me laisser, une pensée positive sur notre Seigneur, et atta'a, l'obéissance aux ordres d'Allah. Mais ce n'est pas une obéissance aveugle, ce n'est pas une obéissance parce que nous devons le faire, ce n'est pas un devoir moral ou religieux, c'est vraiment une soumission à Allah Azza wa Jal avec amour et espoir que j'obéis à Allah Azza wa Jal, assurément Allah est avec moi. C'est une qualité que le croyant. Ce sont des qualités. Si on les retrouve chez les mu'minines, ben cette personne atteint vraiment un haut degré de foi et ça lui permet, subhanallah, de passer à travers n'importe quelle difficulté, n'importe quelle épreuve de ce monde jusqu'à ce qu'il rencontre Allah Azza wa Jal. Donc, Moussa alayhi salam est un modèle pour nous. Le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, est un modèle pour nous. Jésus Isa est un modèle pour nous. C'est ça la beauté de l'islam. C'est ça la beauté du Coran. On a l'histoire de tous les prophètes pour qu'on puisse tirer des leçons de la vie de tous les meilleurs des hommes, les Anbiya alayhi salatu wa salam. Les Mufassirin disent que cette histoire, elle est racontée en détail de le Coran afin que le croyant lise l'histoire, comprenne l'histoire, en tire des leçons qu'ils vont ensuite appliquer quand dans les situations similaires, pas identiques, mais des situations qui se rapprochent, des périodes, ça nous est tous arrivé, des périodes où on ne voit aucune issue. Ça peut être, Allah nous protège, un problème de santé, une mauvaise nouvelle annoncée par un médecin à l'issue d'une radio, d'un scanner ou d'une analyse de sang. Face à une épreuve, on a l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. Pensez à Moussa alayhi salam face à la mer, où il a su garder confiance en Allah azza wa jal. Alors, les qualités que nous avons citées, nous les retrouvons à différentes étapes de cette histoire. Déjà, Moussa alayhi salam, il reçoit l'ordre d'Allah d'amener les Bani Israël vers la mer. Ibn Kathir parle de centaines de milliers d'Israélites, des personnes affaiblies psychologiquement qui ont toujours été réduites à l'esclavage. Ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des battants. Donc, Moussa alayhi salam, dans un langage militaire, il s'expose. Il s'expose, mais de la pire des façons, à l'attaque des ennemis. Et de l'autre côté, il sait que Pharaon a réuni l'intégralité de son armée. Il a même fait venir les réservistes. Et ils sont armés jusqu'aux dents. Ce sont des guerriers, prêts à en découdre, à assassiner Moussa et l'ensemble des Banu Israël. Malgré ça, Moussa alayhi salam fait preuve d'une sérénité remarquable. Il a confiance en Allah azza wa jal. Et ça, c'est une qualité du croyant. Quand on réunit ces deux, les sifat qu'on a dit tout à l'heure, l'homme croit en Allah et ne perd jamais confiance en Allah azza wa jal. Lorsqu'ils arrivent également près de la mer et qu'ils se rendent compte, comme on a dit, que la situation est bloquée, dans les derniers instants où ils vont être rejoints par Pharaon, c'est là qu'Allah révèle à Moussa alayhi salam « anidrib bi'asak al-bahr » de frapper la mer avec son bâton et on connaît la suite de l'histoire. La mer s'ouvre et ils peuvent passer. Quelle leçon nous retenons à travers cet événement? Les gens qui sont aimés par Allah sont éprouvés jusqu'à la dernière seconde, ce qui est humainement possible. Et Allah éprouve les personnes en fonction de leur caractère, de leur personnalité, de leur potentiel, de leur capacité spirituelle à supporter l'épreuve. Chaque épreuve qui nous touche est une épreuve que nous pouvons vivre. Et jamais une personne ne craque par une épreuve. Parce que sa foi, s'il... il a un retour de iman, il a cette puissance en lui qui doit normalement lui permettre de trouver le ressort spirituel nécessaire pour réussir l'épreuve. Et l'aide d'Allah vient toujours à la dernière instant, comme Moussa alayhi salam, comme Ibrahim alayhi salam et comme d'autres prophètes. Également, après que la mer se soit ouverte, Moussa alayhi salam traverse avec les Banu Israël qui sont contents. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon, après quelques hésitations, prend le même chemin. Et là, les Israélites désenchantent, se rendent compte que nous revenons à la situation initiale. Ils vont nous rejoindre de l'autre côté de la rive. Dire, oh Moussa, tape la mer une nouvelle fois que cette mer se referme et que nous soyons protégés de Pharaon. Mais Moussa alayhi salam, en tant que prophète, n'agit que par ordre d'Allah. At-ta'a. Et ne pas faire passer l'intelligence sur le wahi. Ton cœur te dit, il faut le refaire pour fermer la mer. Mais ton iman te dit, écoute et attends la révélation d'Allah. Et regardez comment est-ce qu'Allah envoie son aide. Et c'est une aide qui est parfaite. Lorsque Pharaon traverse et lorsque l'intégralité de l'armée de Pharaon est dans ce passage, c'est là qu'Allah Azza wa Jal ordonne à Moussa de frapper de nouveau la mer. Qu'est-ce qui se passe? L'intégralité de cette armée. Et Noé ibn Kathir parle d'une armée qui approche le million de guerriers. Jamais ils n'auraient pu échapper éternellement à ces personnes, ni encore moins les affronter. Quand Allah Rabbul Izzah envoie son aide, c'est l'aide qui est parfaite. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah nous prédestine des choses. Quand Allah nous envoie une situation, une épreuve, gardons cette conviction qu'elle émane du Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. Mais ça, on le sait. Mais comprenons que les épreuves, les situations sont créées par celui qui est également Al-Latif, celui qui est bienveillant envers ses créatures. Et Al-Latif, ça englobe le sifat du ilm d'Allah, qu'Allah, il connaît tout. Il connaît ton futur, il connaît ta réaction. Il connaît ce qui est bon pour toi, de sa sagesse et de sa bonté, de sa miséricorde. Donc tout ce qui nous arrive, ça vient de Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim et Al-Latif. Donc soyons confiants que tout ce qui nous arrive vient d'Allah Azza wa Jal. Et si nous suivons ces ordres, nous aurons Inch'Allah Al-Faraj. l'aide de notre Seigneur Azza wa Jal, comme Moussa alayhi salam avait obtenu l'aide d'Allah. Hada. Donc les qualités, confiance en Allah, obéissance en ses ordres, conviction qu'il est avec nous tant qu'on suit le chemin qu'il nous a tracé. Et cette conviction, mes chers frères, c'est à la base de la religion. Quand le prophète alayhi salatu wa salam était sur une monture avec un enfant, si je ne me trompe pas, c'était Ibn Abbas, il va lui enseigner quelques paroles, il a dit, sache, ô mon enfant, que ihfadillaha yahfadhuk. Protège le dîn d'Allah, reste ferme dans la pratique et Allah te protégera comme tu protèges le dîn d'Allah. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Protège le dîn d'Allah, Allah sera toujours avec toi. Ensuite, il va lui donner à la fin les conseils. Sache que si le monde se réunit contre toi et que ton Seigneur est avec toi, personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Et dans l'autre sens, si Allah n'est pas avec toi, même si tu as tous les moyens de ce monde, tu ne pourras jamais réussir. Ce sont des leçons de iman et de yaqin, de conviction. Hada. Qu'Allah nous accorde ces qualités. Dans l'assassinat de Hussein, radiallahu anhu, on a dit que cette tragédie, c'est l'aboutissement d'un plan préparé, je répète, par des personnes qui voulaient semer la fitna dans une umma qui avançait jusqu'à maintenant selon l'enseignement prophétique durant tout le khilafat d'Abu Bakr al-Siddiq et tout le khilafat d'Umar ibn al-Khattab. Et Umar avait dit aux sahaba, Umar, c'est la porte. C'est la porte des fitna. Quand cette porte sera cassée, la fitna, les troubles vont entrer de cette umma. Effectivement, après le décès d'Umar ibn al-Khattab, lorsque Uthman ibn Affan est devenu calife, c'est là qu'on a vu les plans des hypocrites à leur tête, un homme qui s'appelait Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba était un des chefs des hypocrites et il avait annoncé qu'il était musulman, mais il préparait des plans, mais sans s'arrêter, pour essayer de trouver une faille. Et il n'a jamais pu trouver la faille tant que Umar ibn al-Khattab était vivant. Mais après son départ, il y avait une baraka en moins de la Ummah. Alors maintenant, quels sont les fléaux? On a vu les qualités à l'époque de Moussa. Quels sont les fléaux qui ont orchestré ce plan diabolique, maléfique, du début jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, premièrement, l'hypocrisie, an-nifaq. Deuxièmement, la désinformation. Le fait que les croyants, on pourrait résumer la désinformation avec al-jahl, l'ignorance. Le fait que les gens soient prêts à croire à tout et à n'importe quoi et agir en fonction de ce qu'on leur dit sans jamais voir des preuves, sans se rendre compte que ces paroles émanent vraiment du Coran ou de la Sunna, c'est le problème à notre époque. Donc, Abdullah ibn Saba, ce munafiq, expert en désinformation, ça existait déjà à cette époque, il parvient à persuader les musulmans d'Égypte et d'Irak que Uthman est un tyran. A'oudhu billah. Ces musulmans d'Égypte et d'Irak, ils n'ont jamais vu de leurs yeux Uthman ibn Affan, ils disent que c'est un tyran. Et Ibn Saba et tous les hypocrites qui étaient avec lui, ils vont même jusqu'à produire de faux écrits, de fausses lettres signées Ali, signées Talha, signées Az-Zubayr, radiallahu anhum, qui demandent aux musulmans d'Égypte et d'Irak de venir à Madina pour se révolter contre Uthman ibn Affan. Première leçon à retenir. Ne jamais porter un jugement sans connaître vraiment le fond, entre guillemets, dans un langage moderne, du dossier. Toujours vérifier lorsqu'on entend quelque chose à propos d'un événement ou à propos d'une personne, d'où le verset, Ya ayyuhalladhina amanu inja'akum fasiqun binaba'in fa. On cherche, on entend quelque chose, on essaie de voir si c'est vrai ou non. Ne jamais prendre de décision, ne jamais agir en fonction de ce qu'on appelle des bruits de couloir, en fonction des rumeurs. C'est ce qui a causé le début des troubles chez les musulmans d'Irak et d'Égypte à l'époque de Uthman ibn Affan. Et justement, une délégation d'Égypte et d'Irak vont rencontrer Uthman, mais lorsqu'ils rencontrent cet homme qui est un sahaba, il trouve en lui un homme d'une sincérité, d'une honnêteté. Et ce n'est pas du tout ce que Abdullah ibn Saba leur avait présenté. Et du coup, ils ne veulent plus destituer le calife Uthman. Maintenant, Abdullah ibn Saba ainsi que les hypocrites se rendent compte que leur plan est en train de tomber à l'eau. Et ils voient que, et ça c'est une leçon à retenir, de le dialogue, de le contact humain, de les échanges, si on est animé de bonnes intentions, si des deux côtés il y a ikhlas, on recherche le contentement d'Allah, assurément on trouve la solution. Et non pas s'affronter comme de nos jours. On s'affronte maintenant par WhatsApp, par SMS, par tweet. Ça c'est un autre niveau encore. Mais on ne se rencontre plus, on ne discute plus autour d'une table, ce qui envenime les choses. Le contact humain est irremplaçable. On continue. Les hypocrites donc, ils voient leur plan échouer, ils ont un plan B. En fait, ils avaient jusqu'à un plan Z. La'natullahi alayhim. Ils voient que les Égyptiens et les Irakiens retournent dans leur pays respectivement. Ils sont contents, notre calife est un homme juste, Abdullah ibn Saba. Il nous a leurrés.
ils envoient un courrier signé du sceau de Uthman ibn Affan à l'attention du dirigeant d'Égypte et d'Irak. Quand ces délégations arrivent, vous les exécutez sur la place publique pour haute trahison. Et les hypocrites s'arrangent pour que ce courrier tombe dans leurs mains. Vous voyez, c'est un plan, on dirait un scénario. C'est un scénario. Et donc, quand ils voient ce courrier, ils retournent maintenant furieux à Médina et ils prennent la décision ferme d'assassiner cet homme qui a essayé de les trahir, Uthman ibn Affan. Uthman interdit aux musulmans de lutter, pas de guerre. Vous croyez que les sahabas n'étaient pas capables de défendre Uthman? Bien sûr que oui. Il y a eu quand même quelques sahabas qui ont essayé de le défendre. Hassan radiallahu anhu et d'autres sahabas. L'épouse de Uthman, une femme qui s'appelait Naïla radiallahu anha, ils ont tous été blessés. Naïla a eu les doigts sectionnés en essayant de protéger son mari. Qu'est-ce qu'on retient? Lorsque des personnes sont aveuglées par l'ignorance, lorsqu'ils sont téléguidés, lorsqu'ils sont commandés par des personnes qui ont des plans diaboliques et qui pour cela utilisent les bases de l'islam, l'amour pour Allah et son prophète, ben malheureusement, les personnes qui n'ont pas de connaissances, ce sont les premières personnes qui vont exécuter les desseins maléfiques et diaboliques de ces personnes. Le gros problème, c'est al-jahl. De l'autre côté, des commanditaires, c'est l'hypocrisie et des personnes qui ont osé assassiner Uthman ibn Affan, c'est al-jahl, l'ignorance. Et le pire, c'est quoi? Vous savez, les personnes qui ont assassiné Uthman, c'était des qaris. Tout comme nous, on vénère quand quelqu'un a une belle voix, subhanallah, la mosquée se remplit, on crie Allahu Akbar, on n'en plus finir. On s'égosille à crier Allahu Akbar, et puis même s'il n'y a personne pour namaz fajr le lendemain, le plus important, c'était d'être là au moment où le qari était là. C'est notre conception un peu réduite de l'islam. Et donc, quand les sahabes avaient accueilli les qurras, ces gens d'Égypte et d'Irak, ils étaient impressionnés. Le niveau de lecture de ces gens dépassait les sahabas. Et lorsqu'ils ont vu ces mêmes personnes assassiner Uthman, ils l'ont dit, on n'aurait jamais pensé que des gens qui lisent le Coran comme ça auraient pu faire quelque chose d'aussi atroce, d'aussi ignoble. Leçon à retenir, la maîtrise du Coran et tout ce qui est extérieur, tout ce qui est apparence extérieure de l'islam n'est pas une garantie de piété ou d'être dans le droit chemin. Quand j'ai un problème, il ne suffit pas de mettre mon bonnet et mon kafni, que c'est bon, j'ai mis la panoplie du super-héros, je vais affronter les épreuves et je vais réussir. Là, wallah, il y a un travail intérieur à faire, comme le prophète avait enseigné Ibn Abbas, et comme nous avons essayé de voir avec l'histoire de Moussa alayhi salam, cette confiance en Allah, avec ça la connaissance, le ilm, pour ne pas sombrer vers ses égarements, parce que quelqu'un peut maîtriser le Coran comme ces gens, mais sombrer dans l'égarement. On va s'arrêter à là, c'est une histoire, elle est très longue, comment les musulmans se sont divisés, même il y a eu cette fameuse bataille de Ma'rakatul Jamal, où l'armée de Aïcha et de Ali se sont retrouvés, il y a un dialogue qui s'installe, et c'est des milliers de personnes des deux côtés. Imaginez cette guerre entre ces deux camps. Ils ont trouvé un terrain d'entente et les hypocrites, ils s'arrachent les cheveux. Notre plan tombe à l'eau, ils sont en train de trouver un terrain d'entente. Il n'y a plus de guerre entre les deux camps. Ils font quoi? Ils vont préparer une attaque préméditée. Le camp A attaque le camp B le matin Fajr et le camp B riposte. Chacun croit que l'autre a attaqué et c'est exactement ce que nous voyons. Des personnes pour semer le trouble sont prêtes à verser du sang pour arriver à une finalité et il y a eu 5000 morts dans le camp de Aïcha et dans le camp de Ali radiallahu anhu. Et les fitnas sont partis de ce sens jusqu'à ce que une personne décide de mettre à mort Al-Hussein radiallahu anhu. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de comprendre quelques paroles, qu'Allah nous accorde les qualités de foi de Moussa alayhi salam et des prophètes, et qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos jeunes, les musulmans, mais également ceux qui se reconvertissent, qui reviennent vers la vérité, qu'ils ne tombent jamais dans l'endoctrinement extrémiste, qu'ils n'écoutent pas ces personnes qui appellent à la violence, et qu'on se réfère toujours à nos savants, à nos référents qui suivent le Coran et la Sunna. Qu'Allah nous accepte tous. Wa fil sunna ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.